Bonjour le Book Club et bonjour Sophie Divry. J'ai lu Tout le monde en même temps, votre dernier livre qui nous renvoie à notre besoin d'amitié, d'amour, à notre solitude aussi parfois, à nos souvenirs et à notre mémoire du confinement du printemps 2020.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une expérience commune, une expérience collective, quelque chose pour tout le monde en même temps aujourd'hui dans votre book club. La romancière Sophie Divry reprend les notes rédigées par elle lors du premier confinement Covid du printemps 2020. Elle retrouve aussi les discours politiques qui furent prononcés, les récits et les décomptes produits par les journalistes pour raconter ce qui lui est arrivé et peut-être surtout ce qui nous est arrivé. Quatre ans plus tard, en retrouvant certains des amis avec qui elle a échangé pendant cette période, elle réalise que tout le monde n'en garde pas les mêmes traces. La romancière est notre invitée. Comme chaque semaine, en ce moment, nous retrouverons en fin d'émission l'autrice Fanny Taillandier, qui ouvre pour nous des livres en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, Agneau, chocolat, protection de l'enfance et un livre de Marguerite Audoux. Et bien sûr, on jouera ensemble au grand jeu des pages musicales à trouver de la musique dans les livres. Il y en a dans celui de Sophie Divry. Bienvenue à tout le monde dans le Book Club. Et bonjour à vous Sophie Divry.
Bonjour.
Votre livre s'appelle Pour tout le monde en même temps, super titre. Il est paru aux éditions du Seuil, le livre sera au cœur de notre conversation. Vous êtes déjà venue pour parler d'un de vos livres, c'était super, c'était dans un book club et du coup vous avez déjà fait ce questionnaire lecture, voilà ça arrive. Ça veut dire que l'émission continue et que vous continuez d'écrire, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles. Donc on va pas faire un questionnaire lecture en bonne et due forme, mais on va parler quand même lecture avec vous parce que c'est la tradition des book clubs. Et on va revenir 15 ans en arrière cette fois-ci. En 2010, vous publiez un premier roman qui s'appelle La Côte 400 et qui racontait le quotidien d'une femme bibliothécaire dans une bibliothèque municipale. Et ses tourments intérieurs, on va dire tourments intérieurs, qui rejoignaient la difficulté de comprendre complètement un classement qui s'appelle le classement Dewey. Peut-être avant de rentrer dans les détails de ce lieu-là, la bibliothèque et de ses éventuels classements, c'était assez drôle que votre entrée dans l'écriture, que vous avez raconté comme un moment très important dans votre vie, à Sophie Divry, se fasse avec un personnage au milieu des livres.
Oui, je ne m'en suis pas forcément rendu compte parce que la Côte 400, c'était d'abord une nouvelle. Enfin, j'avais écrit pas mal de nouvelles avant et c'était une espèce de super nouvelle. Après, comme c'était une période, comme souvent quand on se met à écrire, on est pétri de lecture, de littérature. Enfin, on est un peu ensorcelé, en fait, vraiment, par le pouvoir de la littérature à un moment. Donc c'était pas étonnant que je me projette dans un personnage de bibliothécaire. Mais après, c'était vrai que c'était la bibliothèque publique qui est pour moi un endroit qui est hyper romanesque et qui est aussi un refuge. Et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en général les lieux publics, ce qui est gare, piscine municipale, parc public, tout ça. D'où ma colère, comme je le dis dans le bouquin, quand le parc de la Tête d'Or ou les Bergeronnes étaient fermés pendant le confinement, par exemple. Et du coup, le bouquin est aussi une variation sur la bibliothèque en tant que telle.
Pourquoi c'est un lieu romanesque selon vous, une bibliothèque municipale ?
Bah oui, au premier abord comme ça, ça fait pas forcément ça. Surtout que, mais parce qu'en fait, on peut en faire tout ce qu'on veut. Donc, je pensais ça dans le roman, quand il y a un personnage qui fonctionne, c'est un personnage qui a beaucoup de plasticité. On peut en faire un lieu de rencontre amoureuse, parce qu'il y a notamment dans les bibliothèques universitaires, il y a beaucoup de drague et tout ça. C'est un refuge tout seul pour rester dans son coin, mais ça peut être aussi vu comme un lieu de psychanalyse, ça peut être un lieu de hiérarchie, c'est très hiérarchisé en fait, le milieu des conservateurs, des bibliothécaires, des magasiniers, enfin, donc c'est un lieu de reproduction des dominations, et puis c'est un lieu de culture dans le sens avec culture légitime, culture illégitime, toute la tension qu'il y a eu autour des années 2000 sur bibliothèque, médiathèque, oh mon dieu, on met des DVD, oh mon dieu, on met des BD dans la bibliothèque, tout ça, voilà, reflète aussi la vie sociale, la vie culturelle de notre pays, donc c'était, voilà, ce court texte-là, il était aussi une espèce de manière de regarder un lieu et de varier autour les regards et de faire... Après, c'était un livre aussi pour dire l'amour des livres, évidemment. Après, au fond, je me suis rendu compte après, c'était le personnage un peu écrasé par la culture et par les bouquins.
Vous l'étiez, à ce moment-là ?
Bon, je pense, oui, comme tout personnage, tout auteur qui commence, on se sent quand même un peu écrasé par tout petit truc culturel qui s'appelle la littérature francophone, qui est un tout petit peu lourd, quoi, comme héritage. Hein,
Mais on en a plus ou moins conscience. Vous en aviez conscience.
Ouais, je pense qu'on a tous conscience, quand même. Que quand on commence à écrire des romans, c'est pas... ça s'inscrit dans une histoire de l'art qui est quand même plus difficile à assumer, l'assumer en tant que tel, mais c'est qui demande, comme on dit, de lui en faire le procès, mais quand on commence par la photographie ou le cinéma, il y a aussi énormément de choses à apprendre, ou la bande dessinée, à hériter, à comprendre. Mais on n'a pas cet effet de gravité lourde de siècles et de siècles, en fait. Voilà. Et donc ça, quand on est jeune, qu'on commence, cette gravité, cette lourdeur, elle est quand même pesante. Donc il faut arriver à gérer avec, quoi.
Quand vous évoquez la littérature, vous évoquez à la fois quelque chose de très presque magique. Vous avez dit ensorcelé, un personnage ensorcelé par la littérature. Et en même temps, une pensée assez théorique, des hiérarchies entre les cultures légitimes, pas légitimes, une conscience de l'histoire. Ce seraient deux rapports que vous auriez avec la littérature et la lecture, Sophie Durie. C'est un côté un peu presque irrationnel, ensorcelé, et en même temps une conscience du champ que serait le champ littéraire.
Oui, c'est vrai. Bien vu. Oui, moi j'ai toujours une part de moi qui suis très adolescente, dans le sens qui lit pour m'évader, clairement, qui aime la fiction pour ça, qui aime qu'on y a des romans pour qu'on me raconte une histoire. Et en même temps, je pense que j'ai une conscience assez terriblement pessimiste du champ, des rapports de force, de la condition d'écrivain. Et j'ai pas un irénisme par rapport à ça. Sur le fait que nous faisons partie d'une industrie du livre, ou des pressions diverses commerciales, ou de la situation économique des librairies.
Vous suivez ça, ça vous intéresse?
Je ne suis pas de près, parce que sinon c'est trop déprimant, mais je ne le refuse pas d'y penser. Mm. Voilà. En me disant, moi j'écris mes histoires, et c'est ça qui compte, le reste ne compte pas. Non, mais notamment le rapport à la guerre de l'attention, enfin la perte de la lecture profonde, dans le sens aujourd'hui, pour tout le monde, hein, et moi-même, c'est difficile de s'arrêter pour lire une heure sans regarder son téléphone. Et du coup, on peut pas dire que, enfin, sans vouloir courir après les séries, le cinéma, parce que je pense que la littérature est beaucoup plus forte sur d'autres, en quelque sorte, mais on peut pas ne pas être interpellé par ça en disant est-ce qu'il restera des lecteurs, mais aussi ce qu'on propose est quand même dans une guerre de l'attention et une concurrence entre les arts qui n'avait pas dans les années 50 où le rayon culturel était beaucoup moins étoffé.
Mais voilà. Ça toucherait jusqu'à votre écriture, Sophie Divry, cette conscience de ça, par exemple, de s'inscrire à la fois dans un champ de force économique et dans une lutte pour l'attention dont je le disais il n'y a pas très longtemps dans un épisode du Book Club que une énième étude du CNL montrait la pente de la réduction du temps de lecture contre l'augmentation du temps des écrans. Mmh. Ça pourrait bouger jusqu'à votre écriture ou quand même pas?
Non, ça, je pense pas que ça bouge mon écriture. En tout cas, sinon c'est mon éditeur qui le regardera, sera pas moi. Mais ça me bouge moi en tant que lectrice. Mmh. Donc de toute manière, comme j'écris des romans que d'une certaine manière, quand même, j'aimerais bien lire aussi. Donc, je sais que de toute manière, ça me traverse également. Mais moi, je le fais plutôt, enfin, ça me traverse plutôt en général comme tout le présent me traverse, en fait. J'essaie de pas suivre tout le temps l'actualité, sinon je vais mourir. Mais je veux me laisser traverser par l'époque. Mmh. Voilà. Donc, c'est parce que je veux que mes livres j'écris mes livres pour les lecteurs d'aujourd'hui. Donc, je suis traversée par l'époque et même si c'est douloureux, ça fait partie de mon travail d'artiste.
Dans le livre dont on va parler tout à l'heure, donc il est question en différents temps, en différents espaces de discours, de représentation, de temporalité, de cette période de confinement en 2020, Sophie Divry, période pendant laquelle les livres, la lecture, ont eu paradoxalement un rôle, non pas central, mais en tout cas discuté. On s'est mis publiquement, politiquement, à se demander c'est quoi un livre, c'est quoi un lieu qui vend des livres, c'est quoi l'importance de la lecture dans nos vies. C'était assez intéressant, au final, à regarder. Votre livre parle de la place qu'on a faite à la lecture et vous diriez qu'il y a eu plusieurs temps, en tout cas pour votre double à l'intérieur du texte, plusieurs temps pour la lecture. D'abord, plus du tout.
Oui, enfin là, le bouquin, du coup, il est centré vraiment sur les deux mois du confinement de mars, avril, mai 2020. Et du coup, là, c'était pas des grands moments de lecture. Pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, on avait le sentiment, en effet, qu'on n'arrivait plus à lire parce qu'il y avait plus de place dans nos têtes, en fait.
Parce que sidération, questionnement, choc.
Oui, c'est ça. Il nous fallait des divertissements qui étaient beaucoup plus hypnotiques. que l'effort de déchiffrage d'une page. Après, c'est, au fur et à mesure des semaines, c'est arrivé, mais déjà, je m'en suis rendu compte que, déjà au début, moi, je jouais à des jeux sur mon téléphone et je regardais Star Wars, hein, je le dis dans le bouquin, et je n'avais pas envie de faire, en plus, un effort culturel pour lire, me mettre à lire Ulysse de James Joyce, c'était impossible. Façon même hors confinement, je ne suis toujours pas arrivée, j'avoue. Par contre, après, j'ai réussi à lire des bouquins, notamment, comme ça fait 15 ans que j'écris, comme vous le dites, j'ai des amis qui avaient des manuscrits en cours, et j'ai lu les manuscrits de mes amis, comme on fait régulièrement entre auteurs, mais c'était aussi parce que c'était de l'amitié qui s'échangeait, en lisant les livres, les textes qui n'étaient pas encore finis de mes copains. C'était au fond quand même une manière de lire à travers l'amitié.
Chose qui existe moins dans votre quotidien, c'est-à-dire que c'est ça qu'a souligné le confinement, c'est qu'il y avait dans la lecture, parce qu'il y a
dans
aussi
le quotidien, j'arrive à lire des livres de gens que je connais pas.
Là, il y avait plus de place parce que c'était aussi un signe des liens qui se tissaient, qui s'étaient tissés.
Oui, ou quelqu'un qui dit j'ai lu ça, moi j'y suis arrivée à le lire. Enfin voilà, c'est, parce qu'on dit qu'il y a deux plaisirs dans la vie, c'est lire des livres et en parler. Et du coup, se dire voilà, moi, j'ai lu ce livre-là et du coup, je vais le lire parce que c'est telle copine qui m'a dit là, moi aujourd'hui, je suis arrivée à lire ce livre, je suis contente parce que. Mais après, la lecture est devenue un débat plus sur la question du commerce non essentiel, commerce essentiel. Et donc, en fait, tout ce qui était non essentiel était censé être interdit et du coup, les libraires ont réussi à les faire ouvrir en tant que commerce essentiel. Ça, c'était un débat qui était plutôt après le confinement.
Est-ce que vous avez un souvenir, Sophie Devry, d'une lecture, quelle que soit la forme du texte, qui vous aurait marqué pendant cette première période ou alors au moment où vous avez repris la lecture? 2020, 2021, toutes ces périodes de confinement.
Non, moi je me rappelle que j'ai lu Dag Solstad, auteur norvégien, parce que je devais faire une préface pour son dernier livre, enfin Notabilia, et qui est mort récemment. C'était Tessinger, et j'avais relu 11e roman, livre 18, ou Honte et dignité, et je trouvais extraordinaire. Sans qu'il est mort récemment, alors qu'il n'a pas eu le prix Nobel, c'est dommage. Mais c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, Dag Solstad, qui est à découvrir. Mais je l'ai lu.
Est-ce que vous voulez en dire un mot pour les gens qui ne connaissent pas, comme moi, par exemple?
Ouais. Eh ben, c'est un auteur, c'est un boomer, hein, qui a, la génération.
Drôle d'intro. Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est pour dire qu'il est né, dans ma vie, dans les années 40, 45, et qu'il a beaucoup vécu cette histoire des utopies des années 60. Il a écrit un roman qui est malheureusement pas traduit. Ça, c'est le drame quand je découvre des auteurs qui sont pas traduits parce que. On sait qu'il y a de l'or là, mais on n'y a pas accès. Donc il y a 3 ou 4 bouquins qui sont traduits chez Notabilia et avant Les Élusifs par Brigitte Bouchard. Il a une manière très cruelle d'écrire les utopies des années 60 qui sont devenues après, dans les années 80-90, des gens qui se sont reconvertis dans le management. Il a une phrase très, très longue, très, très cruelle, très, très peuplée et avec une mécanique, en fait, humaine qui est un peu comme dans Zola, les choses se referment sur les personnages qui sont victimes de du mécanisme social. Mais c'est assez époustouflant. Alors, il y a certaines longueurs qu'il faut arriver à comprendre. Du coup, je vous conseille Honte et dignité, si vous le trouvez, ou 11e roman de livre 18, qui a ce livre, qui a ce titre absolument anti-romantique, qui est vraiment sur la société de consommation. Il y a des moments très très drôles et il y a une phrase qui est vraiment magnifique, qui est traduite par Jean-Baptiste Courceau.
Vous le dites avec un œil et une bouche si gourmande qu'en effet, on a très envie d'y aller. On va parler de votre livre maintenant, Sophie Devry, juste après cette chanson de November Ultra. La musicienne franco-espagnole s'était faite connaître au beau milieu de cette période du confinement sur laquelle revient votre livre, en sortant un premier titre, Soft and Tender, et puis tout un album entier. Il s'appelle Bedroom Walls, ce disque, les murs de la chambre. Et puis dans la chanson qu'on a choisi d'écouter aujourd'hui, elle évoque la solitude, mais aussi le plaisir d'être chez soi, avec soi, et la possibilité d'être réunis dans et par le silence.
I'm kind of lonely, but I'm hardly all alone. I'm very homely, but got no place to call my own. Cause when I'm all alone, my mind is spiraling. Da-da-da.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a pile 5 ans, la France était en plein premier confinement décidé pour protéger la population du virus Covid. Le pouvoir en place avait en effet décrété tout un tas de restrictions, dont la plus marquante était peut-être l'autorisation à ne se déplacer que dans un rayon d'un kilomètre, muni d'une autorisation spéciale. Votre livre, Sophie Divry, en tissant les discours politiques, médiatiques, administratifs, aux récits personnels, amicaux et amoureux, sonde les traces laissées par cette période. Pour tout le monde et en même temps, c'est son titre, compare les souvenirs, se demande comment les confinements successifs, et particulièrement le premier, ont fait bouger nos relations d'amitié, d'amour, mais surtout, ou encore, notre relation à l'espace et à la loi. Il paraît aux éditions du Seuil. Il comporte en premier lieu une sorte de mode d'emploi, Sophie Divry, un mode d'emploi qui va nous permettre de lire, à la fois graphiquement, mais presque sonorement dans notre tête, différents agencements de discours. Avant qu'on tente une lecture à deux voix avec Léa, et puis que peut-être on parle de ces techniques de montage. Comment vous en êtes arrivé à cette forme ?
Oui. Alors, il y avait plusieurs idées. La première, c'était de faire un livre un peu fantaisiste, un peu rigolo, si possible, sur une période dont on n'a pas envie de regarder et qu'on est bien content de laisser derrière nous, parce que pendant des années, on s'est dit vivement que ce soit fini, vivement que ce soit fini. Et de trouver une forme visuellement fantaisiste dans la page, comme j'avais fait quand le diable sortit de la salle de bain, où il y avait des calligrammes et tout. Donc là, il y a la couleur bleue, enfin, il y a dans la première partie du livre, qui est un journal du confinement entrecoupé de discours politiques, administratifs et journalistiques. Chacun a sa couleur et son.
Et dans la page, c'est voilà. Complètement distingué. C'est-à-dire que c'est pas écrit dans un continuum où seule la police et la couleur changeraient, mais il y a des sauts de ligne, il y a de l'espace, ça vient s'insérer, mais il y a de l'espace.
Voilà. C'était pour mettre en. Parce que juste mon journal de confinement, je pense que ça n'avait pas d'intérêt, parce que déjà moi, ça m'intéresse pas de parler de moi, de raconter. Mais les discours, en fait, à l'époque, percutaient notre intime. Et donc, c'est la manière de les faire percuter dans la page. Moi, je fais. Voilà, je suis confinée à Lyon dans mes 30 mètres carrés, je fais mes trucs qui sont rien d'extraordinaire. Et là, il y a des voix à côté qui sont des voix, nous sommes en guerre, voilà, les voix de l'administratif de cette putain d'attestation, qui étaient là en permanence en fait et qui nous percutaient notre petite intime domestique. Mais c'était deux niveaux qu'il fallait réussir à rendre. Et donc j'ai assez cherché à la base. De toute façon, je voulais faire un bouquin à partir des 2 ans de notes que j'avais prises, parce que pendant 2 ans, moi, j'ai.
Parce que vous preniez tout ça, vous l'aviez en conscience au moment où vous le viviez, c'est-à-dire la percussion des discours médiatiques et politiques sur votre quotidien, l'entremêlement entre ce que vous pouviez écrire qui correspond à des notes intimes ou à une forme de retracement du réel. Tout ça, vous l'aviez tout de suite en main tout le temps.
Moi, j'ai toujours assez conscience, de façon que l'intime est politique, et pas en termes féministes, je veux dire, que nous sommes pétris d'histoire en permanence. Et cette période-là était tellement dingue qu'on a tous beaucoup écrit, surtout, enfin, je veux dire, tous les gens qui sont de l'écrit, on a encore plus écrit, voilà, enfin, c'est pathologique, hein, aussi. Mais j'ai toujours une grande conscience que beaucoup, beaucoup de choses que nous faisons au quotidien sont extrêmement historiques, comme on le voit aujourd'hui quand on voit n'importe quelle photo des années 70 sur une plage. On voit que tout est historique, le maillot de bain, tout ça. Et moi, ça me fascine sur ce passage du temps. Et donc, j'avais pris les notes pendant 2 années entières parce que je sentais que ce qu'on vivait était tellement dingue en termes de confinement, reconfinement, attestation, vaccin, passe, et puis conversation, petit fait, distance, masque. Il y avait énormément de choses, mais sur ces 2 années, j'ai pas réussi finalement à faire quelque chose. Bon, je garde ces 2 années de notes parce que je sentais qu'on avait tout oublié, par volonté aussi d'oublier. Mais je suis revenue finalement juste au confinement, vraiment les 2 mois de base, qui sont ces 2 mois extraordinaires, tout s'est arrêté, qui reste quand même quelque chose historiquement d'assez dingue, en racontant voilà, ce que j'ai fait, ce que les gens ont dit, et puis en faisant cette enquête après auprès de mes amis. Mais j'ai beaucoup travaillé la forme, parce qu'évidemment, le jour du confinement, ça ne marchait pas.
Il y a quelque chose aussi dans le fait de partager un mode d'emploi dès le départ. On est, déjà, il y a un petit sourire, mais ça, c'est quelque chose qu'on aime quand même souvent quand on aime vous lire, Sophie Livry, c'est qu'il y a une sorte de pacte. Et puis, l'idée de repartir pour une aventure formelle toujours différente. Donc, ça, c'est une forme d'accueil de cet endroit-là. Mais il y a aussi quelque chose qui intéresse votre écriture. J'ai l'impression, quelle que soit la forme que vous lui donnez, c'est le comment. Comment ? Il y a un truc de méthode, de je sais pas, par exemple, dans Fantastique Histoire d'Amour, mais il y avait même l'histoire de la science. Il y a quelque chose d'un peu pratique. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Assez pratique. Et il me semble que là, la forme, elle parle aussi de ça. On va se remonter les manches et on va voir qu'est-ce que ça a fait, comment. On va regarder les choses un peu avec méthode.
Oui, oui, c'est vrai.
Ça n'empêche pas la poésie, hein, quand je dis ça. Hein.
Oui, parce que ça donne quelque chose d'assez poétique quand les petites choses de ma vie quotidienne sont percutées par des phrases que j'ai beaucoup coupées, donc du coup il y a des phrases politiques qui veulent rien dire, qui sont un peu
arrêtées
étranges.
Juste avant qu'elles deviennent censées.
Ou les choses administratives, ou des coupures de presse qui nous racontent est-ce qu'on est mieux protégé avec un sac plastique ou un sac en papier. Oui, c'est vrai que j'ai quand même une grande conscience du sol raboteux, comme dirait le philosophe, et j'ai pas envie de faire une littérature qui parte dans des considérations, même s'il y a une ou deux considérations politiques sur ce que les confinements, ce que nous vivons, comment politiquement ça a été géré. Je voulais pas profiter d'un bouquin pour dire ce que je pense politiquement. Par contre, je préfère toujours ramener à des choses très concrètes je ramasse des fleurs dans un jardin public, enfin un parterre plutôt public, et il y a quelqu'un qui me traite de folle en haut d'un immeuble. Or ça prouve quand même juste cette interaction là, elle est hyper historique en fait. Pourquoi elle me dit que j'étais une folle alors que je ramassais des fleurs? Ça c'est, que ce soit illégal, je veux bien. Et ça, je préfère toujours ramener à des détails. Mais ça, Annie Ernaux le disait très bien, c'est le détail plutôt que l'abstraction.
On l'entendra tout à l'heure, Annie Ernaux, mais on va essayer, avec Léa qui a préparé l'émission avec moi, de rendre cet entremêlement des discours dans un extrait. On est tout au début de votre texte. Chapitre 1, pour tout le monde, 16 mars 2020, 11 mai 2020. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Lisez, retrouvez le sens de l'essentiel.
Interdit aux navires de croisière transportant plus de 100 passagers de faire escale.
Dès demain midi et pour 15 jours au moins.
Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.
Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé.
Catégorie L, salle de conférence, de réunion, de spectacle. Catégorie M, centres commerciaux. Catégorie N, restaurant et débit de boissons. Catégorie P, salle de danse et salle de jeu. Catégorie S, bibliothèque, centre de documentation. Catégorie T, salle d'exposition. Catégorie X, établissement sportif couvert. Catégorie Y, musée.
17 mars. Je me réveille en ayant gardé un petit doute, un espoir, un déni peut-être. Mais la radio le dissipe vite. C'est bien un confinement, comme en Italie, même si le mot n'a pas été prononcé hier par Macron. Le ministre de l'Intérieur l'utilise et parle de l'échéance de midi, où tout doit s'arrêter. Mon père m'apprend avec consternation qu'il faut une attestation pour les déplacements dérogatoires, même pour aller chercher son pain. Dès le petit déjeuner, on ne parle que de ça. Autant la fermeture des écoles et des restaurants nous avait stupéfaits, mais aussi distraits, et même un peu égayés, faisant régner une atmosphère de désordre et de vacances, autant cette restriction brutale des déplacements m'angoisse et donne à tout un air de contrôle. Sophie Livry, un extrait de Pour tout le monde en même temps, où on a essayé de faire entendre d'un point de vue sonore avec Léa Weiss-Gruss la manière dont les textes discutent, se font écho. Ce travail poétique vraiment dans la langue, vous dites que vous avez beaucoup travaillé, concrètement ça s'est passé comment? Parce que d'un seul coup, même si le texte n'est pas inséré, il y a des échos. Enfin, oui, comment vous avez travaillé concrètement la matière?
Eh bien, quand j'ai compris que juste mon journal du confinement, enfin, on pourra revenir sur les journaux du confinement en tant que tel.
Allons-y.
En fait, la première idée, c'était quand même de revenir, je voulais faire quelque chose sur le confinement, mais de toute façon, ça va disparaître, ça va être les 5 ans, et on va tous oublier ça. Parce qu'en plus, je veux dire, il y a des choses plus graves sur Terre qui se passent que d'enfermer les Occidentaux chez eux. Enfin, tout le monde a été... Mais il y a quelque chose que j'ai noté et qui fait partie de l'histoire et qui va disparaître dans nos mémoires, qui va disparaître parce que... Donc je voulais faire ce livre à partir des deux ans de base de notes, et j'ai pas réussi sur 2 ans parce qu'il y a juste raconter mon journal, enfin remettre mon journal, même très coupé, ça n'avait pas d'intérêt littéraire. Parce que le journal en tant que tel, quand on l'écrit, c'est un aide à vivre formidable, et c'est un aide à vivre aussi pour les gens qui le lisaient. Moi j'ai fait des chroniques Facebook, ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé une petite communauté autour de moi. Mais en tant que tel, quand on le relit après, ça tombe complètement des mains, parce que on n'est plus dans cette urgence de partager et se dire « d'autres souffrent avec moi ». On regarde ça comme un objet, voilà, comme un journal intime, mais on n'est plus dans cette ambiance-là. Et donc c'est là que toute la transformation, de subsumer ça de manière littéraire. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'allais plutôt aller voir mes amis et leur demander de quoi ils se rappelaient à mon sujet. Quatre ans après, on comptait l'année dernière, en 2024, printemps 2024, quand le 4 ans du confinement arrivait. Et je suis allée voir mes amis, donc un peu tous les milieux, bon, un milieu assez privilégié, et aisé, plutôt lettré, des profs, des écrivains. Mais il y a quelqu'un qui vient dans une ferme, il y a aussi une paroissienne de mon église, il y a des gens avec des enfants, des gens sans enfants. Et donc ça fait en même temps que moi, voilà, tous les gens, et j'allais leur demander qu'est-ce qu'on a, on a rejoué les scènes qu'on avait vécues ensemble.
Y compris en retournant sur les lieux.
Voilà, en retournant sur les lieux, on retourne se balader dans des quartiers qui avaient changé, en retournant dans des appartements que beaucoup de gens avaient déménagé finalement, en rejouant une scène, je te donne un livre et tu as...
T'es dans la cage d'escalier, il y a de la distance, voilà, je sais pas comment le faire.
C'est ça, je suis allée voir mon filleul qui avait 14 ans, qui avait 18 ans, et... Au fur et à mesure que j'écrivais ces petites enquêtes, alors je me suis inspirée de Christophe Anna L'Argent, un bouquin qui s'appelle Argent tout court, aux éditions Amsterdam. Et où il va voir des gens pour leur faire parler d'argent, leur rapport à l'argent, et il parle avec ses amis, et il écrit ça de manière très dense. Et ça m'a beaucoup aidée pour écrire ça. Je voulais pas faire des pages, il y a 3-4 pages chaque fois. Mais je me suis rendu compte, si je parlais de ce que mes amis avaient vécu, et ils me disaient, oui, t'étais bien déprimé, il fallait quand même que je raconte ce que moi j'avais vécu. Et donc je suis quand même revenue à mon journal du confinement, même si j'ai assez de répugnance à parler de moi. Et donc j'ai fait une version très courte de mon journal purement du confinement, pas sur les 2 ans. Et à l'intérieur de ça, j'ai percuté avec des phrases politiques et administratives. Donc je suis allée voir tous les discours politiques. Alors c'est très pratique parce que les autorités ont ça sur un site, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on peut retrouver tous les discours de tous les ministres, jour par jour, toutes les interviews télé. Et donc j'ai rassemblé, assez rapidement quand même, j'ai traversé ça. Il y avait des grands discours de Macron auxquels on était obligés de suivre, avec quelques phrases qui m'étaient restées. Et j'ai pris ça comme un peu comme de la poésie, en prenant des morceaux, en coupant. De même que je suis allée lire Le Progrès pour Lyon, vu que tout se passe à Lyon, et Le Monde aussi, que j'avais pas lu à l'époque par contre, à la bibliothèque. Et j'ai pris des extraits de journaux. Et puis, évidemment, j'ai pris des extraits de mesures administratives. Et tout ce langage-là, voilà, il y a des moments, des phrases qui me sautaient aux yeux, voilà, qui étaient des détails souvent, à nouveau des détails. Et après, je les ai mélangés avec mon travail, avec mon journal, pour qu'en effet, il y a des échos. Voilà, quand je sors du kilomètre, parce que moi je passais mon temps à sortir du kilomètre autorisé, je mets des choses que, voilà, à l'époque c'était pas Retailleau, mais c'était Darmanin, qui dit, voilà, on a fait 10 millions de contrôles, les Français doivent obéir. Et au fur et à mesure aussi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, au début il y a beaucoup de choses sur là, nous ne devons pas nous toucher, il faut avoir une distanciation sociale, c'est la première fois qu'on entend ce mot. Au fur et à mesure, en fait, du livre, les discours politiques commencent à étonnamment, historiquement, dire des choses, notamment dans les interviews, qui sont « nous ne savons pas », en toute humilité, ou peut-être. Et donc ça, par contre, ça revient... Alors que moi, je commence à me dire « bon, alors c'est le 11 mai », je commence à reprendre un peu du poil de la bête.
11 mai qu'on va être déconfiné, voilà, c'est une sorte de date butoir en effet.
Oui, parce qu'il y avait vraiment ce moment terrible où deux fois ça a été reporté de 15 jours et on ne savait vraiment pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et c'était cette espèce d'anomie du temps, enfin de disparition du temps. Et donc tout ça permet en effet par un dosage après qui est tout à fait
du montage, de l'équilibre, de la rythmique. Oui,
oui, c'est ça. J'aurais pas à dire différemment. Alors là, je me suis inspirée en effet sur l'idée de Nathalie Quintane avec Les enfants vont bien. De monter en fait des catégories de discours qui sont différents. Moi, avec ma pauvre petite angoisse personnelle qui n'a pas une valeur quand même anthropologique hyper intéressante en soi, mais comme elle me sert de matériau, non pas égotique, mais de témoignage d'expérience personnelle sur quelque chose qui nous demandait quelque chose de très simple. C'était pas de prendre les armes comme les Ukrainiens ou de résister sous les bombes comme les Gazaouis. C'était juste de rester chez soi et d'essayer de pas contaminer les autres. Et donc, il n'y avait pas d'héroïsme, en fait. Et à côté de ça, on avait des discours qui étaient des fois disproportionnés en termes « nous sommes en guerre », tout ça, c'est ridicule.
Et ça montre, tout cas, le cut-up et le montage sur la page permet de souligner ça sans avoir à le déclarer ou sans avoir à le démontrer, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie Dévry.
Voilà, et c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on était tous dans des situations assez angoissantes, enfin plus ou moins angoissantes. Moi, j'avais quand même pas beaucoup de ressources, en fait, pour me distraire. Et à côté de ça, il y avait une catégorie de discours qui est étatique aussi, avec le côté on a payé les salaires, ce qui est très vrai. Hein. L'État était vraiment là, un peu trop présente, surtout après. Hein. Mais c'était ça, en fait, que moi je voulais capter, et peut-être qui m'intéresse en général dans mon travail, c'est de capter la rencontre entre l'intime, le tout intime. J'arrive pas à dormir, je regarde Top Chef faire en envoyant des textos à un copain parce que et tout à coup on sort un peu de cette ambiance morbide, enfin macabre plutôt, et en même temps à côté la grande machine en fait administrative, ces attestations, et notre vie c'est ça en fait, des vies individuelles sont traversées en fait de contraintes étatiques, administratives, et c'est ce moment-là on s'est tous sentis en effet citoyens français soumis à un certain nombre de lois.
Vous dites j'ai passé mon temps à dépasser le kilomètre. Il y a un moment donné, un eureka dans votre livre, donc dans cette première partie qui reprend les notes de 2020, où vous découvrez un endroit. On est le 1er avril.
Au joie, j'ai fait aujourd'hui une découverte qui va changer mon confinement. J'ai roulé à vélo plus loin qu'autorisé. Tant pis pour la légalité. Je me suis dit qu'Olivier Véran n'avait aucun intérêt à ce que je fasse une dépression nerveuse. Je me suis souvenu d'une berge sauvage sur la rive opposée au parc de la Tête d'Or, le long du Rhône. J'ai franchi le kilomètre réglementaire au pont Lafayette. J'ai longé le parc de la Tête d'Or, fermé, pris la voie de bus le long de la Cité internationale. J'ai traversé le Rhône à la nouvelle passerelle pour me retrouver côté Caluire. Là, j'ai pu profiter d'un premier jardin accessible. Pas de barrière, des boutons de rose. Je suis restée un moment, puis encouragée par mon audace, le cœur battant, j'ai repris mon avancée. Je suis sous le pont SNCF. La piste cyclable que je cherchais était là. Une voie qui continue vers Rieux sur quelques kilomètres, commençant par un espace vert, de plus en plus enfoui par la végétation. Un mélange de berges, de mini-parcs publics, de promenades à chiens, de voies vertes. Un endroit de nature entre l'autoroute et le fleuve. J'ai caché mon vélo derrière un arbre. J'ai marché. Il faisait beau. C'était merveilleux. J'ai passé une heure dans ce jardin le long du Rhône, couvert de renouées du Japon et de boutons d'or. La police ne pouvait pas me trouver. Je me sentais libre et entière, heureuse d'être célibataire, fière de ma sortie extra-périmètre. Jamais le printemps ne m'a paru plus beau. J'ai traversé un bosquet enroulé de lierre, me suis enfoncée dans les fourrés. Il y avait une minuscule clairière. Je me suis assise. Personne ne pouvait me voir. Personne ne savait que j'étais là. J'ai sorti mon thermos et bu un café. Les mauvaises herbes humides sous mes fesses. Le bruit résiduel de quelques voitures sur l'autoroute. Le grondement du fleuve. Aussi libre que si j'étais dans un autre pays.
Un nouvel extrait de votre texte pour tout le monde en même temps, Sophie Dévry, aux éditions du Seuil. C'est ce paragraphe qui se termine par « dans un autre pays ». Et il y a en effet l'ouverture vers un ailleurs. Si on pousse le curseur un peu loin, même l'idée d'une hétérotopie, d'un lieu qui pourrait, sur les berges d'un fleuve, abriter une nouvelle liberté. C'est quelque chose qui est assez présent dans votre texte, la liberté et la découverte d'une liberté au moment où on en est privé.
Oui, bah, je pense que... Enfin, déjà, la liberté, c'est quelque chose qui traverse tout mon travail, je pense. Même, je pense que je suis devenue écrivaine pour être libre dans ma vie, dans le sens... même si écrire, c'est une forme de servitude à son propre travail, à soi, mais... Et la question de la liberté, qu'est-ce qu'être libre? Est-ce que c'est être seul? Est-ce que c'est être avec les autres? Et là, dans ce passage-là, oui, c'était vraiment... en fait, tout est exact. Hein, non, j'ai pas réécrit mon journal de confinement. Et on se rend pas compte, on se rend plus compte, mais si vous vous souvenez, à l'époque, l'espace était hyper encodé. C'est-à-dire vraiment, est-ce que je vais de leur côté du Rhône ou ici, par exemple, est-ce que je vais de leur côté de la Seine? C'était interdit, c'était illégal, c'était... Et même au bout d'un moment, on n'avait plus l'envie, tellement tout était... On disait, en gros, on a l'impression qu'il y a... Et surtout vous, les Parisiens, vous avez encore plus souffert que les autres, que les gens étaient dans la rue, avaient un halo de gouttelettes toxiques autour d'eux. C'est tout ça, en fait, qu'on a vécu. Et du coup, arriver à trouver, parce que je connais très bien Lyon, ça fait 25 ans que je suis là-bas, un endroit qui n'a pas été interdit, qui ne peut pas tellement être coupé à la circulation, c'est un moment, en effet, où on peut se retrouver soi avec... et ça donne à mon journal quelque chose à faire un peu aussi... c'est la romancière qui parle, une péripétie dans le bouquin.
Il y a une aventure. Voilà, c'est-à-dire qu'autant la question de... Vous disiez, il n'y a pas d'héroïsme, mais là, il y a une échappée belle, il y a une aventure, il y a un franchissement de quelque chose. D'un seul coup, un kilomètre en plus à vélo, la découverte d'un bout de berge près d'un fleuve, et la possibilité de planter clandestinement des patates dans un sol qui n'est pas totalement à soi, Sophie Devry, ça redéfinit plein de petites choses d'une certaine manière et des grandes choses, même si vous voulez pas faire de ce livre un livre philosophique, on pourrait prendre juste cette expérience-là et en faire une expérience de pensée profonde.
Vous le dites.
Non, je sais pas.
si, c'est la première fois de ma vie que j'ai planté des pommes de terre. Ça a pas tellement marché, mais en tout cas, par contre, ça a marché quand je les ai plantées. En termes de retrouver une puissance, ouais. De retrouver une puissance qu'on nous avait enlevée. Voilà. Et puis pareil que quand on cultive une terre, on est vraiment chez soi. Alors maintenant, je suis vraiment lyonnaise, il n'y a pas de problème.
On va écouter la voix d'Annie Ernaux que vous évoquiez tout à l'heure et que vous citez souvent. Elle parle de son livre « Les années ».
Les années sont écrites à partir justement du langage. C'est le langage dont je me souviens, avec souvent une grande précision, que le récit est construit, parce que c'est un récit. C'est le récit des années, hein, d'à peu près 1945 à 2007. Et à chaque fois, ce sont des images qui me reviennent, mais dans lesquelles, surtout, il y a aussi un grand travail. Il y a un travail, justement, peut-être de l'ordre de l'ethnologie, c'est-à-dire, dans chaque image du souvenir qui me revient, une analyse des éléments qui la compose. Là, nous sommes en 1955, je pars d'une photo, mais il y a aussi le reste, le changement, la métamorphose du monde, puisque rien ne s'arrête jamais. Et tout cela est fait à partir d'images et de choses entendues, bien sûr, de cette époque. Et évidemment, ce sont des souvenirs personnels, parce que s'il y a une mémoire collective, c'est toujours à partir d'une mémoire personnelle. Et au fond, ne vaut comme mémoire collective, je crois, que justement celle qui est constituée à partir de mémoire personnelle.
2014, Annie Ernaux au micro de Laura Adler sur France Culture à propos de son livre Les années, Sophie Divry. À la fois l'idée que vous avez déjà développée depuis le début de l'entretien de la manière dont se percutent les vies intimes, les souvenirs personnels et la constitution d'une mémoire collective, mais aussi ce qu'elle dit de retenir le langage. Ce qui me revient le plus, c'est le langage. Et vous faites ce geste-là d'aller voir les gens, de mener des formes d'entretien. Est-ce que vous voulez bien nous dire le genre d'entretien que vous menez avec vos amis et comment est-ce que vous travaillez ça en matière littéraire pour que ça devienne un texte?
Oui, parce que la deuxième partie du livre est une espèce d'enquête amicale. Donc avec un hommage à Jacques Roubaud et ses incises, parce qu'en fait, moi légèrement au journal du confinement, puis à un moment je dis, parce que ce que je vais essayer de dire, c'est qu'en fait, est-ce qu'on s'est tous aperçus de ça pendant le confinement, c'est que nous sommes reliés, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin les uns des autres. Donc même moi, où j'étais en effet toute seule, en 30 mètres carrés, sans enfants, sans famille, sans jardin, sans balcon, tout ça, mais j'avais beaucoup de relations sociales, en disant qu'on avait tous 4-5 heures de conversation au téléphone, par Skype...
Pas tous, malheureusement.
Pas tous, mais il y avait en tout cas une place pour trouver des choses à faire avec les gens. Des fois, c'était faire des jeux vidéo en ligne, ou s'occuper des enfants. Et du coup, je suis allée voir les amis pour leur demander, avec une grille d'entretien un petit peu, quand même, voilà, ton meilleur souvenir, ton pire souvenir. Est-ce que tu as franchi le kilomètre? De quoi tu te rappelles? Et moi, comment tu me trouvais? Et après, j'ai ramassé ça pour en faire chaque fois des espèces d'exemples de... moi, j'ai vécu... Dans la première partie, on voit ce que j'ai vécu. Et après, on voit en même temps ce que d'autres ont vécu. Alors, le but, c'est pas faire un livre de sociologie. Mmh. Donc, c'est de montrer, comme dit Anno, en fait, que le souvenir que j'ai de moi-même est peut-être biaisé et que peut-être c'est mes amis... le philosophe le dit aussi très bien. C'est mes amis qui ont une vérité sur moi aussi. Notamment, moi, je suis là, moi, ça va, j'ai quand même, comme les écrivains, on est très habitués au télétravail, j'étais très structurée, je faisais du sport, j'écrivais 6 heures par jour, et le soir, je buvais une bière tous les soirs, et j'ai mon amie Maya qui me dit, oui, mais enfin, ça n'allait pas du tout, quand même. Et moi, j'ai dit, oui, mais j'ai tenu, oui, t'étais pas effondrée en mangeant du chocolat et en faisant de la série dans ton lit, mais n'empêche que tu n'allais pas bien. Et voilà, j'ai
reconstruit autre chose.
Voilà, quoi. Et moi, c'est la question qui se pose en général. C'est, déjà, c'est un livre sur l'amitié, c'est-à-dire nos amis détiennent une part de vérité sur nous. Et puis, on a besoin de nos amis pour arriver à traverser n'importe quelle épreuve. Et c'est un livre sur la tendresse aussi, sur cette tendresse que je peux échanger là. Il y avait ce côté-là aussi en 2024, je vais voir mes amis, on prend un verre, on parle de ce moment, on a fait une balade ensemble, on refait la promenade ensemble dans le quartier de la Part-Dieu où il y a encore des choses qui ont été déconstruites. Et alors qu'on pouvait pas il y a cinq ans, on pouvait juste se faire des actes très très bêtes comme aller boire un café, on pouvait pas. Et il y avait ce côté aussi pour moi qui était très marqué par le confinement, dire en fait est-ce qu'on peut réapprécier ces moments amicaux, ces moments de tendresse, se toucher, se prendre dans les bras, boire un verre ensemble, à quel point c'est précieux. Se rappeler de ça aussi.
On va écouter la voix d'Antoine, libraire et auditeur du Book Club. Il vous adresse une question, Sophie Divry.
Bonjour le Book Club et bonjour Sophie Divry. J'ai lu Tout le monde en même temps, votre dernier livre qui nous renvoie inévitablement, je crois, à notre propre expérience, à nos souvenirs et à notre mémoire du confinement du printemps 2020, qui nous renvoie à notre besoin d'amitié, d'amour, à notre solitude aussi parfois. Et j'avais envie de vous poser la question suivante. Si la littérature est un refuge, est-ce que ce refuge a la forme d'une cabane en bois ou d'un monastère? Merci pour votre réponse.
Merci Antoine pour cette vaste question, Sophie Divry. On ne l'a pas dit, mais enfin, vous l'avez tout à l'heure signalé en mentionnant... une des conversations que vous avez avec une femme de la paroisse de votre église, la question de la foi, de l'impossibilité de se rassembler pour prier, de constater que chanter ensemble vous manque, mais aussi de rapporter l'expérience de personnes qui se branchent en streaming sur une messe, c'est aussi des usages complètement hallucinants, et de le voir écrit dans un livre, on se rappelle à quel point ça a créé des nouvelles pratiques. Donc je bavarde, mais en fait c'est vous qui devait répondre à la question.
Oui, pour le monastère ou la cabane. Ouais. Parce que dans le bouquin, je parle de ma pratique. Quand je parle de religion, en général, dans mes bouquins, je parle souvent de la pratique. C'est mon côté, en effet, très prosaïque, comme vous dites.
Et le fait que d'avoir... Méthodo. Été...
Voilà. Non, mais je pense... Et le fait d'avoir été privé de liberté de culte, c'est vraiment vécu comme quelque chose de difficile. Dans le sens, la liberté de culte est vraiment un droit, quoi. Et qu'on ne peut pas, pour des raisons trop importantes, c'est vraiment une souffrance. Ça, c'était une découverte aussi pour moi, parmi toutes les petites souffrances. Mais même si le monastère en tant que tel est une utopie dans le sens, c'est une manière de vivre ensemble qui est intéressante, enfin qui est contre la famille. Moi, je suis pas très famille. Comme idéologie de la cellule familiale, ça n'a jamais été trop mon truc. J'aime bien les monastères pour ce côté-là, essayons de faire un phalanstère et vivre ensemble. Mais j'aurais quand même plutôt tendance à être moi, perso...
Cabane en bois,
oui, carrément. trop solitaire, je pense, même pour la fraternité. Les repas pris en commun, je pense que je serais très vite fatiguée. Et donc, du coup, je serais quand même beaucoup cabane en bois.
On va terminer avec un extrait de ces fameux entretiens que vous retravaillez et que vous faites lire, Sophie Divry, dans votre texte, parce que c'est le dernier, l'entretien qui clôt, et c'est la voix d'un jeune homme, et on sait comment ils ont été, eux aussi, ces jeunes gens, percutés par cette période de 2020.
Thank you.
Yuen allonge ses grandes jambes au bout desquelles s'agitent des pieds démesurés. La fenêtre sur la cour apporte une lumière douce. Au-dessus de lui, je remarque une de mes anciennes aquarelles, un cadeau d'anniversaire. Deux moineaux sur un fond bleu. Deux oiseaux des villes. Au final, Ewen estime avoir perdu un an de cours, voire plus, avec le Covid. Tant que ça ? Oui, tu comptes 3 mois avec le confinement, car à la reprise en mai, ils n'étaient que 5 à être envoyés en classe. Ils n'ont rien fait. À la rentrée en 3e, c'était compliqué. Les profs galéraient, avec les demi-classes, les visios, les absences, les cas contacts. Il a décroché en maths. En plus, c'est pas juste ce qui s'est passé. Les collégiens nés en 2005, ils l'ont eu gratos, le brevet. Tandis que les 2006, comme il dit, ils ont dû le passer normalement. Non, c'est pas juste. En seconde aussi, il a senti les traces de son retard scolaire. Les profs balaient ça, alors qu'on a beaucoup de séquelles. C'est à bout, dis-je ? Ewen a les mains dans les poches, il lève les yeux en l'air. Ben oui, si on en parle, les profs disent « c'est du passé, on reprend, on oublie ». Personne n'ose en parler, les profs prennent ça à la légère. Genre comme s'il n'y avait rien eu, genre comme c'est une étape, alors qu'en fait non. Nous, ça nous a beaucoup retardé. À 14 ans, un confinement, ouais, c'est dur, il conclut. Un peu comme quand il a repris le rugby. Avant, il était très bon plaqueur. Après, il a eu du mal, dans sa tête comme dans son corps. Il a repris, mais difficilement, comme s'il avait vécu une blessure.
C'est la fin de la portion de ce livre grande où vous donnez la voix aux autres, aux amis, à l'entourage Sophie Divry qui sont comme ça en possession d'un savoir sur vous et sur cette période-là. Pourquoi est-ce que vous terminez avec ce jeune Ewen qui a 14 ans en 2020 et donc 18 en 2024
Parce que j'essaie d'avoir un peu tous les âges, donc il y a de 18 à 65 ans environ dans le bouquin. Parce que je suis très proche de lui. C'est la première personne que j'ai pu prendre dans mes bras le 11 mai. Et pour moi, c'était vraiment très important. Pour lui, on ne s'en souvient pas. Et ensuite, parce qu'en effet, je pense qu'on n'a pas tellement entendu la voix de ces jeunes qui ont en 4e, 3e, une année fichue en l'air, plus de copains. Et parce que il dit, je les ai enregistrés, puis après je retranscrivais, mais là, c'est leur mot. Je pense qu'on a vécu une blessure.
Ouais. Voilà. Et c'est le dernier mot d'ailleurs, avant l'épilogue quand même.
Oui, c'est ça. Et donc ça peut vous faire réfléchir au lecteur sur peut-être qu'en effet, on n'a pas forcément très envie de repenser à ça. Mais ça nous a laissé une blessure. Et je pense que quelque part, ce confinement a déterminé beaucoup de choix ensuite. Intime ou des choix de vie, mais même des choix plus.
Vous dites aussi politiquement, parce qu'il y a une conversation qui laisse entendre que cette blessure ou ce vécu politique commun n'est par exemple pas sans rapport avec la manière dont s'est tramé l'été politique 2024, Sophie Divry.
Oui, mais surtout parce que tout le livre aussi, on a pas le temps d'en parler, mais c'est la question de comment attraper le temps. Ces 2 mois qui ont été un trou dans le temps, où moi je savais plus en avril si on était tel jour ou tel autre, on était quelque part en avril. Donc j'essaie de capter ce temps qui passe en 2024 sur 2020. Et puis quand je fais mes entretiens, arrive la dissolution de l'Assemblée nationale qui nous pousse aussi dans une espèce de vertige. On avait peur de ce qui allait se passer et on est à nouveau sidéré. Et donc le temps rattrape le livre qui lui-même travaille sur le temps. Donc ça, c'était aussi très intéressant que ce ne soit pas un livre mémoriel. Mais au présent, sur ce qui nous travaille.
Et le book club continue.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine à cette heure-ci, on vous retrouve Fanny Taillandier pour les lectures d'actualité. Vous avez pour mission de sortir des livres de votre bibliothèque en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, le programme est vaste. Un agneau, un enfant, la confiance en la vie avec Marguerite Audoux. Bonjour Fanny.
Bonjour Marie. Oui, heureuse d'être sur France Culture et comme chaque lundi, pour faire honneur à ce beau nom, je vais tâcher de chroniquer notre petit hexagone avec des livres dedans. Et donc aujourd'hui, une chronique pascale, puisque nous sommes le jour où les chrétiens de France fêtent Pâques, la résurrection, synonyme de pardon. Tout comme l'Aïd, fêté par les musulmans de France il y a 3 semaines, fête de la réconciliation, et comme Pessa, la semaine dernière, fête de la libération pour nos concitoyens juifs. Remarque en passant, tout ça à la même période et avec les mêmes rites festifs, de l'agneau puis des gourmandises en dessert, comme pour nous suggérer qu'en fait, on est un peu tous les mêmes, hein, même si on passe notre temps à se critiquer. Des humains. Bref, c'est le printemps et la saison des repas de famille. Et qui dit repas de famille dit souvent engueulade de famille, notamment à propos des autres, ceux qui mangent aussi de l'agneau et des sucreries, certes, mais avec d'autres gens, moins bien que nous, moins bien que les nôtres. Mais si, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas facho, c'est toi qui es wokiste là, etc., etc. Les enfants jouent près de la table et n'y comprennent rien, mais plus tard ils feront pareil et ils se souviendront. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne se souviendront pas, qui n'auront pas ces souvenirs. 400 000 enfants en France vivent par l'aide sociale à l'enfance. Comme beaucoup de services publics, celui-ci ne marche plus du tout. Les enfants se retrouvent en danger au lieu d'être protégés. Les adultes ne sont plus assez nombreux, plus assez riches, plus assez reposés pour arriver à faire leur office d'adulte, protégés. À l'occasion d'un rapport parlementaire et d'un plan ministériel, Le Monde a publié une série d'articles sur les arcanes de l'aide sociale à l'enfance, La Montagne, un documentaire sur les placements. On lit et on entend des témoignages d'enfants, d'anciens enfants, tous ces petits gosses qui subissent la cruauté des adultes, leur faiblesse ou tout simplement leur absence. Et qui se retrouvent en tout cas livrés à d'autres mains inconnues, anonymes, avec des sigles qui changent, DAS, AZE. Ces sigles, on sent bien qu'on ne peut pas se représenter ce qu'il y a derrière, ni en tant qu'enfant, ni en tant qu'ancien enfant. Et ça m'a donné envie de vous parler aujourd'hui de Marguerite Audoux.
Marguerite Audoux, qui est aujourd'hui un peu ou relativement oubliée, mais il y a 100 ans, qui faisait partie des écrivaines célèbres, notamment grâce à un livre qui s'appelle Marie-Claire, publié en 1910.
Oui, c'est un récit autobiographique où elle raconte son enfance d'enfant abandonné, comme elle le dit elle-même. Et l'histoire du livre est intéressante. En passant, Marguerite Audoux est devenue couturière à Paris et elle se met à écrire ses souvenirs. Un ami à elle découvre le texte, le fait passer à Octave Mirbeau, qui le fait publier, et le livre reçoit le prix Femina et s'écoule en quelques mois à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc Marie-Claire, le double de Marguerite dans le livre, comprend le monde à hauteur d'enfant. Le récit commence par la mort de sa mère lorsqu'elle a 3 ans, poursuit avec son père qui titube sur la grande route et finit par filer, laissant sa fille à l'hôpital général de Bourges. Le récit court de l'enfance jusqu'aux 18 ans de Marie-Claire, quand la narratrice, sortie de l'orphelinat, monte dans le train en gare de Bourges pour partir à Paris, ce même train par lequel je suis venue à Paris aujourd'hui pour vous livrer cette chronique. La France racontée par Marguerite Audoux a bien changé, elle est bien différente de celle d'aujourd'hui. Il y a des cochons à saigner dans la cour de ferme, des bonnes sœurs en cornette qui vous apprennent à coudre, des pieds beaux, des nuées de papillons blancs au-dessus du blé dans les champs. Les enfants aussi ont changé en un siècle. Ceux d'aujourd'hui viennent parfois de l'autre bout du monde. Ils ne deviennent plus bergers à 12 ans. Certains partent au chouf, d'autres se prostituent.
Et pour autant, si vous le sortez pour vos lectures d'actu, c'est qu'il y a quelque chose qui demeure dans cette voie de petite orpheline.
Oui, d'abord sa fragilité. Quand elle arrive à l'orphelinat, Marie-Claire s'attache à l'une des sœurs. On la place directement comme bergère dans une métairie. Elle s'attache à l'un des métayers. On les chasse. Elle tombe amoureuse d'un garçon bourgeois. Il la prend, puis la délaisse pour épouser une femme de son rang. Elle se retrouve à chaque fois livrée à elle-même. L'histoire est dure, mais le récit est lumineux. Et surtout, ce qui est intact un siècle après, c'est la confiance qu'il y a dans ce regard d'enfant. Envers quiconque, envers la vie. Parce qu'il faut bien faire confiance quand on doit grandir et qu'on est sans famille. Marie-Claire lit la nuit des livres que certains adultes bienveillants lui fournissent. Elle rêve, comme tous les enfants. Et à la fin du livre, quand sa sœur l'abandonne, une fois de plus, sur le quai de la gare de Bourges, son train s'ébranla et je restais là à le regarder s'éloigner. Presque aussitôt, un autre train s'arrêta. Les employés couraient sur le quai en criant « Les voyageurs pour Paris, traversez !» Dans l'instant même, je vis Paris, avec ses hautes maisons toutes semblables à des palais et dont les toits étaient si hauts qu'ils se perdaient dans les nuages. Un jeune employé me heurta. Il s'arrêta devant moi en disant « Est-ce que vous allez à Paris, mademoiselle ?» J'hésitais à peine pour répondre « Oui ». L'enfant a rêvé de Paris, comme il est décrit dans les lettres persanes, les maisons semblables à des palais, les toits qui se perdent dans les nuages, c'est une citation presque littérale de Montesquieu, et elle suit son rêve, quels qu'en soient les risques. Le train siffla un premier coup, comme s'il me donnait un avertissement, et quand il m'emporta, son deuxième coup se prolongea comme un grand cri. Qui sont les enfants abandonnés? Ils ont beaucoup en commun avec l'agneau des sacrifices, beaucoup aussi avec les sucreries. Ils entendent Dieu dans toutes les langues, comme disait Victor Hugo. Ce sont des enfants qui ont parfois besoin d'une résurrection ou d'une libération, ou tout simplement de se réconcilier avec les autres. Et nous, les adultes, autour de la table, si on pensait à eux plutôt que de s'écharper sur des divisions factices, si on se demandait un peu quel récit et quel rêve notre pays a à leur offrir.
Grande question, belle question, merci beaucoup Fanny Taillandi. On ouvre quel livre pour ces lectures d'actu?
On ouvre Marie-Claire de Marguerite Audoux.
Et peut-être un peu les lettres persanes? Non.
On peut aussi.
Plutôt Marie-Claire. À réécouter sur franceculture.fr.
À cette heure-ci, dans le Book Club Sophie Divry, on joue à un grand jeu. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. Il s'agit de chercher de la musique partout où il y en a, dans les textes que nous parcourons, que nous lisons. Alors c'est un jeu auquel on joue avec nos auditeurs. Ils peuvent nous envoyer des photos, des extraits où ils trouvent de la musique via l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com, ou bien via le compte Instagram du Book Club. Et puis nous aussi, on joue et on a trouvé de la musique dans votre livre. On se quitte donc avec un extrait de Pour tout le monde en même temps. À mon sujet, Sylvain se rappelle que je venais de me séparer. J'étais dans le chagrin, mais je l'exprimais, pas de refoulé. Physiquement, je tenais le coup. Puis il me dit qu'on parlait des antivax. Ah non, je réponds, impossible. C'était pas du tout l'époque. Oui, il confond avec nos conversations d'après. Tout se chevauche. Tout était si intense, dit Sylvain. Dis-moi, ce devait être fatigant cette période pour toi avec de telles responsabilités dans ton travail. Il ne sait pas. Il boit son chocolat puis me dit que le 10 mai, la dernière fois où on a applaudi à 20h, il était sur son balcon. Il a mis à fond une chanson de Zazie, Speed. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne, allez debout, allez sors. Le tempo l'a prise aux tripes, il s'est mis à pleurer. Tu as pleuré vraiment ? Ouais. Il était ému de voir ses voisins danser, que tout cela soit fini, qu'on s'en soit sortis ensemble. Et puis, je dis, tu avais beaucoup pris sur toi pendant 2 mois, non ?
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas.
Merci Sophie Divry d'être venue parler de Pour tout le monde en même temps.
Merci.
Du Seuil.
Merci.
Vous aviez dit que vous alliez ralentir votre débit de parole au fur et à mesure de l'émission et on termine par Speed.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal du tout. Au son, c'était François Saint-Jour, à la réalisation Anna Holweg. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club que je suis ravie de retrouver. Léa Weissgruss, Luke Vauvillier, Jeanne Aleos, Noé Margas et Alexandra Laibegovic avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.